CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour tout le monde et merci d'être avec nous dans ce mag de ce mardi. On vous parlera d'une conférence organisée par le CPIE Quercy-Garonne de Caylus. Elle se tiendra ce jeudi et aura pour thème évolution climatique en Bas-Quercy, changement à venir sur la biodiversité. On vous dira tout dans ce mag. Après, comme tous les mardis, la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques. On y retrouve Victor Le Guenec.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause Arche, dystopie, éveil et conscience. Avec tout d'abord Arca ou la Nouvelle Éden. Une bande dessinée de Van Jensen et Jesse Lonergan qui narre en bonne dystopie sociale l'histoire d'une communauté d'humains ayant survécu à une apocalypse et voyageant dans un gigantesque vaisseau à destination d'une nouvelle terre promise. Récit de science-fiction, somme toute, assez classique mais efficace et brillant. Où Effie, notre héroïne, une pionnière qui évolue au bord du vaisseau spatial Arca, une arche créée par des milliardaires après la catastrophe climatique qui a rendu la Terre inhabitable. Un vaisseau composé de deux castes, les citoyens, les ultra-riches et les pionniers, le commun des mortels. Tous réunis autour de l'espoir d'un Éden qu'ils atteindront tous ensemble. Un huis clos spatial, donc, qui reprend le schéma classique de ce genre d'œuvre avec toutefois une narration très efficace. Arca parle d'aujourd'hui, de nos sujets contemporains, avec les références obligées du genre, de Soleil Vert à Wally en passant par le transpersonnage. Côté graphique, Jesse Lonergan s'amuse avec beaucoup d'énergie. Le découpage aussi entre le très bon et l'excellent. Et est par moments particulièrement audacieux, avec en tout premier lieu une couverture superbe qui ne nous laisse qu'entreapercevoir le potentiel de cette œuvre. Et la séduction continue à l'intérieur, par le trait et les couleurs. Une esthétique qui nous rappelle les années 60, c'est joli, rythmé et inspiré. Une parfaite porte d'entrée dans le genre de la dystopie sociale. À lire, après les infos. De suite, on enchaîne et on reste dans le thème du futur, avec cette fois une double BD du grand, du géant Marc-Antoine Mathieu, auteur-dessinateur de génie, qui nous avait déjà émerveillé avec sa série des Julius Corentin à Queufac, mais qui, ici dans Deep Me et Deep It, s'empare d'un sujet hautement plus vaste, qu'il est difficile de nommer sans dévoiler une grosse partie de l'intrigue. Ça raconte un éveil, celui d'Adam. La première information qui lui soit donnée lorsqu'il reprend conscience est un prénom, son prénom. Il tente de s'exprimer, mais personne ne l'entend. Et qui sont ces gens? Des médecins, des policiers, son épouse? Dans ce noir intense, son esprit s'endort et se réveille à intervalles plus ou moins réguliers. Dans un premier temps, nous n'avons droit qu'à du texte, même pas un vrai dialogue, car la conscience qui s'éveille et s'exprime juste pour nous qui lisons l'album. On comprend qu'Adam émerge du coma dans une chambre d'hôpital, tout en restant incapable du moindre mouvement, donc d'émettre le moindre son. Par contre, Adam perçoit les bruits environnants, ce qui nous permettra finalement de voir des personnes s'exprimer. Adam ne revient d'abord à la conscience que par bref instant, tout en restant incapable d'évaluer le temps. Par contre, progressivement, des images obsédantes apparaissent à sa conscience. Il semblerait qu'Adam revive encore et encore l'instant crucial d'un accident qui pourrait être la cause de son coma. Cet instant apparaît comme figé, tout en évoluant au ralenti pour se préciser progressivement. L'œuvre est pour le moins surprenante. Des cases, certes, mais noires, avec des bulles de texte. On entend Adam penser et les gens parler autour de lui, mais on ne voit rien. Mis à part ces quelques flashs de lumière blanche qui popent de temps en temps. C'est une enquête sur soi-même, une énigme qui part d'un postulat philosophique qui nous place comme jamais dans la situation résumée par la célèbre formulation de Descartes. « Je pense, donc je suis ». Bref, une enquête sur le fondement d'une pensée de la certitude. Suis-je ? Deep Me est suivi de Deep It, où on suit les progrès d'Adam, avec cette fois des cases, je vous le donne en mille, toutes blanches. Si cette idée de BD noire et blanche peut déconcerter, il ne faut absolument pas louper ce petit bijou de réflexion philosophique sur ce qui fait que nous soyons quelqu'un ou quelque chose. Sur ce, je vous laisse. Arca de Van Jensen et Jesse Lonergan, ainsi que Deep Me et Deep It de Marc-Antoine Mathieu, sont à retrouver philosophiquement dans votre réseau des médiathèques préférées. Bonne lecture et à bientôt.
Bientôt, notamment sur CFM Radio, vous pouvez écouter toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques tous les mardis et en podcast sur le site de cfmradio.fr. Salut Victor.
Salut.
CFM Caylus. Le mag.
Et de retour dans ce mag à propos d'une conférence qui nous est proposée par le CPIE Quercy-Garonne de Caïus, le centre permanent d'initiative pour l'environnement qui propose depuis le début de cette année ces conférences, les conférences des granges. La prochaine, ce sera là ce jeudi dans la nouvelle salle des conférences au-dessus du lac. Elle aura pour thème évolution climatique en bas Quercy, changement à venir sur la biodiversité. Et elle sera animée par Christian Tchoque. Bonjour.
Bonjour.
Pour l'Université libre de Bruniquel. Alors, évolution climatique en bas Quercy, ça fait un peu peur, comme partout ailleurs, non ?
Non, parce que, bon, évolution, ça ne veut pas dire catastrophe, hein, obligatoirement. Hein. Le climat n'a jamais cessé de bouger. Peut-être un peu plus vite sous l'action anthropique, hein, celle des hommes. Mais non, en fait, quand on est de grandes personnes, quand on est au courant de ce qui va se passer, on fait attention à limiter les dégâts. Quoi. Donc moi, je n'ai pas de souci. Hein. Regardez, la biodiversité du sud de l'Espagne existe. Les gens y vivent. Donc on aurait une biodiversité un peu différente avec l'évolution du climat. Mais la nature a horreur du vide. Hein. Donc il y aura une nouvelle biodiversité. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas. Pas encore, en tous les cas, mais ça ne sera pas le Sahara. Quoi. Ça, c'est évident.
Alors, on parle température, là, vaguement, si on se compare au sud de l'Espagne, est-ce qu'on parle pluviométrie aussi ? Parce que, effectivement, donc la biodiversité est amenée à changer, mais les espèces qui disparaissent, mais elles remontent, c'est même pas sûr.
Oui, alors c'est d'ailleurs un des sujets de la présentation que je vais faire, c'est en fait la migration des espèces méditerranéennes vers le nord. Donc il y a un déplacement du climat, et avec le climat, il y a un déplacement des cortèges de floristiques et faunistiques. Alors ça ne remonte pas à la vitesse des 24 heures du Mans, hein, ça remonte tout doucement. On va dire que en fait 1 degré Celsius de température moyenne en plus, c'est 200 km hein, vers le nord. Quoi.
Et donc je reviens à la question que j'avais essayé d'entamer, mais je me suis auto-coupée, pardon, pluviométrie.
Alors la pluviométrie, il y a quelque chose, alors effectivement si la température évolue de manière positive, température moyenne, hein, la pluviométrie est relativement peu. Relativement peu, en gros, je crois qu'on a perdu sur les 60 années d'observation de la pluviométrie sur l'est du département de Tarn-et-Garonne, c'est de l'ordre de 20 mm par an, quoi, à peu près. Quoi, hein. Donc c'est pas grand-chose. Ce qui est important, c'est le régime de pluviométrie qui évolue. À savoir qu'on va plus vers des précipitations qui sont intenses, courtes, intenses et réparties dans le temps. Avant, on avait des précipitations un peu plus régulières. Mais il y a toujours eu, le graphe le montre très très bien, des écarts entre les années peu pluvieuses et les années très pluvieuses, un écart du simple au double. Une des différences à l'heure actuelle que l'on peut voir sur les régimes de pluviométrie, c'est que les périodes où il pleut pas beaucoup sont beaucoup plus longues que les périodes où il pleuvait pas beaucoup dans le temps, il y a 60 ans.
Ça fait bizarre presque d'entendre un discours si peu alarmiste.
Je sais pas, il n'y a pas d'alarme à avoir. Là, on a fait le suivi avec l'université des réserves souterraines, en fait, de l'eau. Effectivement, il y a des périodes où il y a très peu de réserves, mais elles se reconstituent. C'était le cas cette année. Après 2 années de sécheresse intense, les réserves souterraines se sont reconstituées et on a un bon niveau à l'heure actuelle des nappes. Maintenant, là, il faudrait être prudent. C'est sur la gestion qu'on va faire de l'eau que l'on a, quoi.
Alors oui, parce qu'on parle changement à venir sur la biodiversité naturelle. Alors, ça va remonter, donc le sud va venir un petit peu plus par ici. Et si on parle sur la biodiversité cultivée, cette fois-ci, il va falloir forcément s'adapter, nous, en tant qu'humains.
Ça, c'est autre chose, quoi. Mmh. Hein, effectivement, elle est très très importante. Hein, c'est une des trois biodiversités dont il faut parler. Hein, il y a la naturelle, en fait, celle dans laquelle on vit tous les jours. Il y a l'exceptionnel. Effectivement, voir la petite fleur qui va, comment dire, qualifier un terrain et qui va le sanctuariser. Puis il y a la biodiversité cultivée, hein, celle dont on a besoin pour se nourrir. Alors, on a monté avec une amie qui est directrice de recherche à l'INRA, un groupe de réflexion sur l'avenir de l'eau en pays midi-quercy. Donc on est en train de montrer qu'effectivement les itinéraires techniques devront changer. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait on va encore une fois vers un désert, quoi. Mmh. On va peut-être changer quelques espèces cultivées. On va peut-être avoir une influence très forte, plus forte sur l'élevage. Mais n'oublions pas que dans les calculs qu'avait fait le CNUD, hein, donc au niveau de l'ONU, en 2050, il y aura 6 pays dans le monde qui seront capables d'auto-satisfaire la production agricole pour ses habitants, dont la France. Donc, pas de souci. Mais les choses vont légèrement changer, quoi. Mais il ne faut pas avoir peur du changement.
Évolution climatique en Bas-Quercy, changement à venir sur la biodiversité. C'est donc le thème que vous avez choisi pour la prochaine conférence qui est proposée par le CPIE. Dans la précédente, on parlait à travers les phosphatières, notamment du club d'Oral, de l'étude qui remonte jusqu'à quelques millions d'années en arrière jusqu'à maintenant. Et là, les estimations que vous proposez, vous, sont proches.
Oui, bien sûr. Parce que en fait, quand j'étais encore en activité, j'avais monté quelques modèles mathématiques qui avaient été validés par Météo France, hein, sur ce qu'on appelle de la faible maille, c'est-à-dire des territoires qui sont pas très très grands, et sur du pas décennal. C'est pas la peine d'aller au-delà de 20-30 ans. Les modèles sont dispersifs et en fait répondent assez mal, quoi. Donc là, moi, je m'arrêterai en 2050, ce qui est déjà pas mal, quoi, hein, comme horizon. Alors moi, les observations que j'ai faites sur le terrain, c'est quand je me balade, c'est des observations de la biodiversité naturelle, en fait, hein, celle de et pas cultivée, quoi. Hein. Donc effectivement, on voit qu'il y a déjà des réponses flagrantes à l'évolution du climat, au-delà des mesures que l'on peut faire, des mesures physiques. Hein, la nature répond.
Alors, du coup, je suis très curieuse de savoir quels sont les modèles que vous avez proposés pour Météo France et dans quel cadre.
Ah oui, bah c'était dans le cadre de mes activités donc professionnelles. Hein. Donc moi, j'ai dirigé la recherche d'un laboratoire relativement important. Et effectivement, on évoquait le développement durable, entre autres. Hein. Et donc quand on veut parler d'avenir, y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est l'évolution de la population et de ses besoins. Et deuxièmement, les impacts du changement climatique. Mais pour parler des impacts, il faut connaître quelle sera l'évolution climatique. Donc, j'avais été membre pendant une bonne dizaine d'années à l'École Polytechnique d'un groupe de travail qui s'appelle X Environnement, qui était dirigé par Jean Covici. Et donc, j'avais commencé à écrire un modèle qui donnait des prévisions, c'est pas le mot qu'il faut, quoi. Des tendances, c'est plus sérieux, hein, des tendances sur donc des surfaces relativement faibles, c'est-à-dire la moitié d'un département, par exemple, hein, et sur 10, 20 ou 30 ans maximum, quoi. Les grands modèles mathématiques qui existent à l'heure actuelle par exemple l'évolution du climat sur la France, divisent la France en 4. Donc vous voyez, en fait, un quart de France. Ce serait très bien que d'un département à l'autre, en fait, on n'a pas du tout les mêmes réponses, quoi. Aller dans l'Aveyron et aller dans le Gers, c'est pas très loin, et pourtant on n'a pas du tout les mêmes climats, quoi. Donc je m'intéressais vraiment au local.
Alors, on va poursuivre cette conversation, Christian Tchouk, parce que vous allez la proposer dans le cadre de cette conférence Évolution climatique en Bas-Quercy. Hein. Donc là, on est en ultra-local, changement à venir sur la biodiversité, conférence qui se tiendra, je le rappelle, ce jeudi à 19h30 à Keilus, aux Granges du Lac, une conférence initiée par le CPE Quercy-Guerin. On a poursuivi cette conversation juste après la musique. Ne bougez pas.
CFM Caylus. Le mag.
Dans ce mag, on est toujours avec Christian Tchoqueux qui va proposer une conférence au programme de ce jeudi, conférence dans le cadre du cycle initié par le CPIE Quercy-Garonne qui se tiendra donc à Caylus au Grand Julac, conférence qui aura pour thème évolution climatique en bas Quercy, changement à venir sur la biodiversité. Alors Christian, vous avez des prévisions qui sont assez positives, hein. Alors oui, il y aura du changement, mais vous le disiez, la nature a horreur du vide, tout ce qui disparaîtra sera remplacé par autre chose. On parlait de la météo en ultra local, mais on voit aussi qu'il y a quand même de plus en plus de difficultés à prévoir la météo et donc les changements sur la biodiversité qui en découlent.
Oui, alors il y a deux choses dont qu'il faut séparer, c'est la météo et le climat. La météo, c'est aujourd'hui et demain matin, le climat, c'est sur 30 ans. Donc en fait, effectivement, c'est très compliqué, c'est vrai, à l'heure actuelle, de suivre simplement la météo du jour au lendemain. Moi, avec mon groupe là de l'université, quand on cherche à se balader, je regarde la météo pour savoir s'il va pleuvoir ou pas. Ben, je la regarde deux fois par jour, et souvent, deux fois par jour, ça change. Donc, mais le climat, non, en fait, c'est une tendance, hein, sur du long terme, c'est du lissage exponentiel. Donc il y a pas du tout en fait les mêmes réponses, quoi.
Quel type de relevé est-ce que vous faites au quotidien avec votre groupe, donc de l'université, on rappelle l'université libre de Bruniquel?
Oui, alors au quotidien, c'est 185 mesures qui sont intégrées dans le modèle, quoi. Donc on en sort de la pluviométrie, des températures, du vent, de l'ensoleillement. On en sort en fait des équations qui vont vous donner, par exemple, un indice de sécheresse ou pas, un indice très important qui est celui de la méditerranéité, c'est-à-dire en fait de la progression du climat vers un climat de type méditerranéen au détriment d'un climat de type plutôt atlantique. Là, on est vraiment à la frontière de ces deux tendances, et on voit qu'il y a une progression très nette en fait du climat de type méditerranéen, avec justement la flore et la faune qui arrivent.
Biodiversité juste changeante, alors hein, les changements à venir sur la biodiversité naturelle remarquable et cultivée, c'est tout simplement une remontée vers le sud.
Oui, alors changeante, on va dire plutôt en évolution, quoi. Hein. C'est s'il n'y a pas un changement, rapide, important. Non. Il y a, on voit qu'il y a des nouvelles espèces qui arrivent, qui s'implantent, qui trouvent des conditions qui leur conviennent très très bien, et parce que ben aussi les plantes qui les ont devancées sont là. Donc c'est le cas d'une petite punaise. Tiens, je vais vous donner un exemple. Une petite punaise qui s'appelle Graphosoma semipunctatum, désolé mais c'est son nom en latin, qui est en train de remplacer une de ses copines qui s'appelle Graphosoma italicum. La première en fait était considérée d'une distribution strictement méditerranéenne, et c'est vrai que j'aimais aller la photographier, c'est-à-dire à 10 km du bord de la Méditerranée, et depuis 5 ans elle est présente à Bruniquel. Elle est présente en augmentation. Il y a 5 ans j'ai vu un exemplaire, l'année d'après j'ai vu un couple, l'année dernière 70 exemplaires sur la même région.
Mais elle voilà. Arrive, et alors on l'aime bien, hein, mais au détriment.
Oui, elle est sympa celle-là, elle est très sympa, elle va pas envahir les maisons. Ouais.
est-ce que vous allez articuler votre conférence du coup?
En deux temps, on va dire, quoi. En fait, d'abord pour expliquer ce qu'est le climat local, son évolution et les conséquences, hein, de son évolution avec les grands descripteurs de l'évolution du climat. Et deuxièmement, c'est les constats que l'on fait quand on va se balader et que l'on observe en fait la nature autour de soi. Donc sur quatre grandes thématiques en fait, hein. La première, c'est l'apparition de nouvelles espèces, donc qu'ils soient floristiques ou faunistiques, entomologiques en tous les cas. Ce qui m'intéresse également, c'est de voir, en particulier au niveau des orchidées, qu'il y a des hybridations qui se font depuis une vingtaine d'années, qui n'existaient pas avant. Alors pourquoi? Parce que vous savez que les orchidées souvent sont inféodées à un insecte qui va les polliniser. Or, s'il peut arriver en fait de nouveaux insectes qui n'étaient pas présents dans le temps et qui eux en fait se posent pas la question, donc ils vont aller voir deux ou trois orchidées, deux ou trois espèces différentes, et il va y avoir l'apparition de nouvelles espèces, ou en tout cas des hybrides d'espèces pour l'instant, mais plutôt des hybrides. C'est le cas d'une très belle orchidée qu'on trouve à Bruniquel, qui s'appelle Orchis, que je me trompe pas de nom. Un petit trou de mémoire, hein, je suis désolé, mais pseudo, voilà, c'est la pseudo-spéculum, Orchis, Orchis pseudo-spéculum, très belle orchidée, que je montrerai d'ailleurs le jour de la conférence, quoi.
Évolution climatique en bac, RC, changement à revenir sur la biodiversité. Cette conférence se tiendra ce jeudi soir à Caylus. Christian Tchouqueux, puisque vous êtes là, vous nous présentez l'Université libre de Bruniquel dont vous faites partie.
Alors c'est une association de jeunes retraités quoi, qui s'intéressent beaucoup à la nature. Donc on est une vingtaine, donc c'est fluctuant hein, naturellement. Et chacun on s'est donné une spécialité. Il y a par exemple une mycologue qui est une ancienne pharmacienne. J'ai des botanistes, j'ai des entomologistes. Donc moi je m'intéresse beaucoup. Alors ça fait rire tout le monde, mais ça m'intéresse beaucoup les punaises. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis déjà à une centaine d'espèces photographiées sur le cause de Bruniquel, quoi. Donc il y a des spécialistes des papillons, des spécialistes des oiseaux, et donc on se réunit plusieurs fois par an, et en général pendant nos universités d'été, on a un cycle de conférences avec des universitaires qui viennent nous donner des connaissances que nous on n'a pas. Voilà.
En attendant, le prochain rendez-vous, c'est à Caylus. Hein. Ce sera, on le redit, ce jeudi à 19h30 dans la salle de conférence du nouveau pôle environnement Les Granges du Lac. Les conférences des Granges, c'est le nouveau cycle du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, le CPIE Quercy-Garonne, qui vous invite, hein, Christian Tchouqueux, à proposer cette conférence sur les évolutions climatiques en bas Quercy et sur les changements qui en découlent sur donc, la biodiversité. Ces conférences sont bien évidemment gratuite. Christian Tchouqueux, merci beaucoup. Et puis à jeudi, 19h30, du coup.
Avec grand plaisir. Merci.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag, qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 21h ainsi qu'à 18h. Et vous pouvez aussi le réécouter en podcast sur le site de CFM Radio, cfmradio.fr.